There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En gros, il me donnait, je demandais un thème, 10 mots, une situation de départ, une situation d'arrivée et deux personnages. Ça peut paraître beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas beaucoup et c'est surtout que les gens s'amusent tellement à donner des trucs différents. Que... Parce que moi, je me suis retrouvé dans des endroits, je me souviens d'un jour où j'étais dans un festival étudiant, ils ont voulu me faire. Genre, tu sais, la situation de départ, c'était Naruto à la pêche et la situation d'arrivée, c'était tu croises, je sais plus, Elton John dans un kebab, tu vois, un truc du genre.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Aymeric pour ce nouvel épisode de Bouteille à la mer. Aymeric est bordelais, comme vous l'entendrez à ses petites expressions typiques de la région, mais surtout écrivain et réalisateur. Il est l'auteur du recueil de poèmes RDDST et a voulu partager son parcours de vie avec vous. Avec Aymeric, nous avons parlé de timidité, de rapport à son corps et au corps de l'autre, d'écriture, de rap et d'indépendance. Vous écoutez Bouteille à la mer. Et bienvenue Aymeric, merci beaucoup pour ta participation sur le podcast Bouteille à la mer, je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît?
Oui, ben bonjour, merci à toi pour l'invitation. Du coup je m'appelle Aymeric Macouillard-Gillet, je suis écrivain et réalisateur, en passe de devenir réalisateur, j'ai plusieurs projets en cours dans ce domaine-là. Et du coup, j'essaye de faire avancer petit à petit tous mes projets artistiques. Et après, j'ai d'autres projets à côté de conférences ou dans mon métier de base où j'essaye de sensibiliser les gens à prendre conscience d'eux et de se déconstruire face à des problématiques, notamment lorsqu'ils sont privilégiés, tels que le patriarcat, le blanc triarcat, etc., pour essayer de créer un environnement plus sain et inclusif autour de nous.
C'est top. Alors, on va commencer cette petite interview de ton parcours par l'enfance, comme d'habitude, par le début. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'enfant que tu étais et des souvenirs que tu as de cette période, s'il te plaît?
L'enfant que j'étais, je pense que le premier truc à dire, peut-être, c'était... J'étais très, 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 très timide pendant longtemps. Ouais. Mais c'était maladif, c'est-à-dire que je pouvais pas ne serait-ce que aller je me souviens que je pouvais pas aller à des anniversaires quand j'étais petit parce qu'il fallait que je reste accroché à la jambe de ma mère, etc. J'étais vraiment très timide et il y a eu un gros changement dans ça, c'est qu'un jour ma mère m'a inscrit au théâtre et du coup pour le coup ça a été le vrai gros changement de ma vie parce que à partir de ce moment-là j'ai continué à être timide à l'école pendant un moment, mais c'était déjà moins, j'avais plus de facilité, et par contre ça m'a débloqué au sein de chez moi, j'étais moins timide même dans les repas de famille, on va dire dans les endroits où j'étais à l'aise, là j'étais Ben j'étais bavard, je commençais à être bavard. Et pour le coup, ça m'a jamais quitté. Peut-être qu'il y en a qui regrettent maintenant que j'étais inscrit au théâtre parce que je parle beaucoup. Mais oui, après, j'ai souvenir que pendant toute la primaire, j'étais encore timide. Au collège, je l'étais, ça y est, j'étais moins avec mes amis, je disais ce que j'avais à dire. Mais par contre, j'avais toujours cette appréhension. Je sais que jusqu'à ce que je quitte le collège, je me faisais toujours petit. Parce que je voulais pas ramener de. Mais c'est des trucs bêtes, mais quand on est petit, il y a forcément peut-être des bêtises qui se passent et tout avec nos amis. Moi, j'y participais pas et je restais toujours en retrait parce que je voulais pas ramener de soucis à ma mère. Et ça a duré jusqu'à la fin du collège. Et j'ai une anecdote pour le coup. C'est marrant, je me souviens d'une sortie scolaire où j'étais à la. Là, c'était la primaire. Et tous les élèves. En fait, on était une sortie scolaire, on attendait le bus. Donc le bus devait revenir et tu sais. Tous les élèves étaient dissipés, quoi, en fait. Ils faisaient beaucoup de bruit, ils couraient partout. Et moi, j'étais le seul assis sur les marches et je ne bougeais pas. J'attendais le bus. On m'avait dit, à l'époque, je respectais les règles, hein. Ça a changé par la suite, mais j'attendais juste. Et je me souviens que la surveillante qui nous accompagnait a juste crié, elle en avait marre, en fait. Elle a dit, ah, oh, mais c'est pas possible, mais vous pouvez pas tous être sages comme Aymeric, là.
Ah oui,
Et
ça a dû te faire tilt.
j'ai ce souvenir que. Ouais, j'ai ce souvenir qui m'a marqué où je me suis dit, ah ouais, mais. Enfin, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas que je suis sage, c'est que, en fait, moi, j'ai juste. C'est pas par rapport à toi, c'est juste que j'ai peur et je veux pas ramener de bêtises chez moi ou quoi et dire que j'ai fait des bêtises. Donc voilà, ça m'a. J'étais sage, je dirais, assez timide jusqu'à
Ouais,
tard.
c'est drôle. Et c'est vrai que souvent le théâtre, ça a cette faculté de nous faire un petit peu sortir de nous-mêmes et de nous révéler d'une certaine manière. J'entends souvent ce genre de témoignages.
Et oui, moi en effet, ça m'a fait faire des choses pour le coup pour l'enfant réservé que j'étais, qui était à mille lieues de ce que je pouvais imaginer. Enfin, j'ai des cours de théâtre où pour le coup, au début, j'y allais, je me disais, mais comment je vais faire ça? Genre à la fin du cours, on annonçait ce qu'on allait faire la prochaine fois et je me disais, mais moi, j'ai un souvenir en particulier où un jour, dans un cours de théâtre, on me demande de jouer une scène comme si je rentrais du travail avec ma femme. Mais donc, pour jouer la scène. Je sais qu'il va falloir prononcer des mots tels que chéri, des trucs comme ça. Et moi, ça pour moi c'était impossible. Et du coup j'essayais d'esquiver le truc et le prof il me disait bah, vas-y, c'est ta femme et tout, donc dis-lui chéri, viens là, nanani. Et moi c'était trop, j'arrivais pas à me mettre dans le truc au début. Donc il a fallu du temps avant que.
Ouais, c'est sûr que ça débloque forcément des choses, hein. Mais l'air de rien, c'est quand même très très bien parce que du coup, aujourd'hui, ça t'a aussi, je pense, aidé à t'affirmer un petit peu plus. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que tu as été éduqué comme un garçon ou est-ce que tu as le sentiment que ton éducation n'était peut-être pas forcément genrée? Comment tu vois les choses?
Si, je pense que. Bah, déjà, pour être très honnête, je pense qu'il faut remettre le contexte de son époque. Et il est vrai que, autant aujourd'hui, c'est très bien, on se pose toutes ces questions-là, on peut s'attarder sur certaines choses. C'était pas forcément le cas. Je suis de 93, donc au début des années 90. Donc, forcément, oui, j'ai grandi. Alors, j'ai reçu une éducation où j'étais très libre de faire ce que je veux tout de même. C'est-à-dire que peu importe ce qui importait, c'était que moi, ça me rende heureux. Mais. Enfin, après, je vais te prendre des exemples bêtes, mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé jouer aux petites voitures. Alors que c'est le truc
Ouais,
cliché quand on est
complètement.
garçon. J'avais des petites voitures chez moi, mais j'y touchais pas. J'ai souvenir aussi qu'on m'achetait pas mal d'Action Man. Je ne sais pas d'où c'est venu ce truc, parce que, genre, j'ai aucun souvenir d'aimer, genre, ces grands bonhommes, tu vois. Donc j'y jouais pas, mais forcément oui c'était genré dans le sens où oui à la et puis tu sais l'éducation c'est pas que ce que tu reçois à la maison, c'est la continuité dans l'école et là-bas les problématiques c'était pareil. Moi à la cour de récréation je jouais au foot, je restais avec les
Bah oui,
garçons,
forcément.
c'était voilà. Donc oui clairement c'est le cas. Après comme je dis j'ai pu faire ce que je voulais.
Ok, ça t'a pas non plus empêché d'être toi-même.
Non, parce que après, peut-être que tu vas vouloir en parler par la suite et qu'on va quitter le domaine de l'enfance, mais moi aujourd'hui, l'un des trucs qui me caractérise le plus, c'est que j'assume ma sensibilité de manière très forte. Et parfois sur des sujets où, si tu veux, même dans mon groupe de potes garçons, tout le monde va pas forcément avoir la même sensibilité sur ces choses-là ou l'assumer de la même manière. Moi, pour eux, ça leur paraît normal et c'est même pas relevé parce que c'est Emmerich, okay, entre guillemets. Donc, c'est Emmerich, il a toujours été comme ça. Et enfin, toujours non, parce qu'il a fallu que je m'affranchisse de certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est normal pour eux. Donc non, ça m'a pas empêché derrière. Mais maintenant, comme j'en parle dans ma conférence que je te disais en introduction sur la conscience de soi, il faut que tu t'en affranchisses parce que forcément, tu te prives de trucs. Et au-delà de te priver de certaines choses, tu les fais subir à l'autre. C'est-à-dire que cette sensibilité-là, malgré tout, si tu restes dans un truc très genré, ça c'est un truc de garçon, ça c'est un truc de fille, et bien peut-être que ça va te paraître sur des sujets bénins, mais mine de rien, ça va développer ce que j'appelle la main fragility, et ça va t'empêcher d'avoir certaines accointances avec certains sujets, de te questionner sur des problématiques de genre, d'orientation sexuelle, sur les problématiques féministes, tout ça, et tu vas déclencher, ou tu vas peut-être même déclencher en toi une certaine colère quand on va te parler de ça, et ça c'est la main fragility. Donc ça peut dans ce sens-là te priver de certaines choses.
On va continuer un petit peu sur toute cette période, et on va entamer l'adolescence, cette période aussi très charnière. Quel adolescent tu étais, quel souvenir tu as de cette période ?
Ben là, l'adolescent, on parle à partir de 14 ans, je présume.
Ouais, à partir du moment où tu te sens ado, à quel moment tu sens qu'il y a eu un changement.
Ben moi, pour le coup, je pense que c'est à partir de ce stade-là, où je me suis vraiment senti ado et différent du... qu'il y a eu une cassure avec l'enfant que j'étais en primaire, je vais dire. Je pense que c'est aux alentours de... quand j'arrive en 4e, 3e, parce qu'avant, moi en tout cas, je restais dans un truc assez infantile. Ouais. Et 4e, 3e, ben c'est le premier rapport avec les... Enfin, il y a un premier rapport avec les filles, parce que c'est là où peut-être les trucs des amourettes, etc., ça commence. Autant te dire que moi, à l'époque, personne ne me donnait l'heure, donc mon premier rapport, il est très lointain. Okay. Il est très lointain en ça, mais je sais qu'en tout cas, je me considère ado, parce qu'il y a ces problématiques-là qui commencent à arriver, à savoir de... J'ai souvenir, il y a des gens qui s'invitent, qui font des petites soirées entre eux, des petits après-midi, etc. entre eux. Et pour tout te dire et pour être très sincère, j'ai le souvenir d'une adolescence, c'est ça, au lycée y compris, d'un... J'étais là, j'avais mon groupe d'amis, etc., mais je me sentais toujours en retrait, et je pense que c'était le cas, parce que j'étais quand même de nature assez solitaire, et de nature assez solitaire aussi parce que je trouvais pas mes marques en fait dans certains points. Pour être très clair, moi mes amis, je viens d'une classe assez populaire, et du coup moi mes amis c'était certaines, en fait jusqu'au collège ça a duré, à savoir que les clichés c'était des gens très intelligents et des gens très bien, mais moi mes amis c'était peut-être les élèves dits dissipés au collège sur certains points. Et moi, du coup, je voulais pas être affilié aux bêtises pour pas ramener à un moment. Du coup, dans le collège, j'avais d'autres amis, entre guillemets, un autre groupe d'amis. Sauf que quand je finissais le collège, je retrouvais mes vrais amis. Et du coup, j'étais toujours entre ces deux. Je me souviens d'un truc que j'étais... Tu sais, j'ai toujours été le... Comme j'aime le dire, le seul petit babtou de mes groupes d'amis. J'étais le plus petit, le score skinny, etc. Donc, parfois, il y avait des gens qui voulaient me tailler sur certains trucs. Mais il ne pouvait jamais rien m'arriver de plus parce que j'étais l'ami des gens qu'on respectait.
Ouais, je vois
tu vois.
Très bien.
Mais j'étais quand même OK parce que j'étais entre les deux, etc. Okay. Et qu'à l'intérieur du collège, je restais avec ceux qui pouvaient lire des mangas, des trucs comme ça et tout. Donc, j'ai le souvenir d'une adolescence où je me balade, en fait. Je me balade entre les trucs et entre l'extérieur, entre à l'intérieur du collège. Et j'essaye de trouver mes marques et j'essaye de trouver qui je suis. Et je pense que le gros changement aussi, c'est qu'à partir de la troisième, je commence à faire... Ouais, quatrième, troisième, je commence à faire mes premières manifs et je commence à avoir l'esprit rebelle qui se déclenche, là, ça y est. Et du coup, je commence à m'intéresser à certaines choses. Ben, évidemment, quand t'es au collège, et surtout à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, Internet, Instagram, les trucs où t'as pas tous les comptes déconstruits et tout, donc tu cherches, mais... Faut faire le tri et tu prends aussi de mauvaises infos sur certaines choses et
complètement,
tout.
Complètement,
ouais. Mais ça m'a permis d'arriver plus tard. Je mets ça encore dans l'adolescence. Hein. Pour moi, on dit souvent pré-adulte quand on est au lycée, mais pour moi, ça continue un peu l'adolescence. Mais ça m'a permis d'arriver au lycée avec certaines questions au moins. que je voulais challenger. Et où là, tu as un peu plus d'outils parce que tu peux aller faire des recherches, tout ça. Et ouais, mais j'ai le souvenir d'une adolescence où. Après, honnêtement, je te dis, je pense qu'à l'époque, il y a certains trucs qui auraient pu être plus traumatisants pour moi, mais que je les ai pas forcément conscientisés sur le
Ouais,
moment.
tu penses à quoi par
Et
exemple?
c'est. Ben, je pense que. Le côté, j'ai un de mes meilleurs potes qui dit souvent, ouais, aux soirées, on a été plus évité qu'invité.
Ouais.
Et ça, c'est aujourd'hui, on en rigole beaucoup. Mais et hier, j'en parlais à une amie aussi, sur le côté, tu sais, les soirées, ne serait-ce que quand t'arrives le nouvel an et que tu vois tout le monde a des trucs. Déjà, moi, ça a commencé à la primaire parce que je suis né en août, le 1er
OK.
août. Et autant à la primaire, genre, les gens fêtent leur anniversaire en classe. Moi, 1er août,
Oui.
oublie. Genre, il n'y avait personne, tout le monde était en vacances. Donc, déjà, ça s'était éliminé. Et donc, déjà, il y avait ça. Et après, ça s'est poursuivi au collège, dans le sens où bah, je fêtais pas trop mes annivs. Et ouais, et au moment arrivé où. Tout à l'heure, on parlait de souvenirs très précis. Je me souviens qu'en quatrième, il y a. Je citerai pas leur prénom, mais du coup, il y a des camarades à moi. Il y a des potes à moi, genre de l'extérieur, c'est mes frérots, quoi, on est des potes à moi. Et eux, ils sont invités par la fille populaire du
Ok,
collège, tu vois.
ouais.
Une après-midi, elle dit, on va faire une après-midi, etc. Et moi, je vois bien qu'elle dit à tout le monde, sauf moi, alors que je suis dans le groupe, là. Et bien évidemment, genre, je leur en veux même pas, mais quand t'es à l'époque du collège, les garçons, ils y vont, et puis voilà, tu vois, ils se soucient pas de ah, mais par contre, t'es pas aussi solidaire que quand tu l'es plus
Ouais.
tard, ah, mais si on vient, on amène tout le
Ouais,
monde ou quoi.
complètement.
Là, c'est genre, t'es dans la fougue, t'es dans l'adolescence, donc t'y vas. Et moi, je me retrouve genre à ne pas y aller. Et je sais que cet après-midi-là, j'ai quand même pris mon vélo et je suis passé, tu vois, dans la maison où il s'amusait par hasard pour me dire, ah, peut-être qu'il va faire un signe, quoi. Ce qui n'est jamais arrivé.
Ouais.
Mais du coup, ouais, c'est plus ce truc-là où je me souviens que j'étais pas triste, tu vois, de ça. Où j'étais. Ça allait pour moi, c'était pas grave, c'était du bonus. Si ça arrivait pas, ça arrivait pas. Mais par contre, ça a dû me planter certaines graines, mais pas forcément mauvaises. Mais ça m'a aidé à ce qui fait qu'en grandissant, eh bien, je suis très à l'aise avec ma solitude. Et je pense que ça, c'est des stigmates de
Oui,
l'adolescence. Et que
certainement.
si j'avais pas fait un certain travail de ce temps-là, plutôt que de le prendre, ça, je ne saurais pas l'expliquer hein, pourquoi je l'ai pris aussi bien, entre guillemets. Mais si j'avais pas fait un travail sur ce point-là, peut-être que ça m'aurait peut-être plus traumatisé, j'aurais été plus triste, un enfant qui vive. J'aurais peut-être été plus, pour prendre une référence d'une chanson que j'aime beaucoup, L'enfant seul de Oxmo, je me serais peut-être plus senti comme l'enfant seul, tu vois. Mais non, c'était pas le cas, ça allait. Et là, en te disant, j'ai d'autres trucs qui reviennent sur l'adolescence, du
Ouais,
coup.
vas-y.
Donc. Ouais, je me souviens aussi. Bah déjà, il y a mon rapport au rap qui a commencé à l'adolescence.
D'accord.
Et ça, mine de rien, c'est peut-être ça aussi qui a comblé beaucoup de
OK.
choses. C'est-à-dire que je me souviens très précisément qu'un soir, en rentrant du collège, j'étais sur mon canapé en sky, là, qui te colle quand t'es torse nu, et j'attendais Charm qui passait le
Ah ouais,
soir.
très année 2000, hein.
Et
Là, on est à fond dedans.
ouais. Et j'étais couché, genre de série que, en plus, quand t'étais garçon, même ça, t'assumais pas
Ouais,
complètement que tu
j'imagine.
regardais ça. Genre, quand tu rentrais, tu disais. La seule série qui était autorisée pour nous, c'était pour nous les garçons, pour le coup, quand on parlait de trucs de genre, c'était. Tu pouvais dire que tu regardais les frères Scott, mais tu faisais Crary, c'était pour le
Ouais,
basket.
je vois très bien.
Alors qu'en vrai, il y avait deux shoots en une saison, c'est tout, c'était pas du tout pour le basket quand on regardait ça. Mais ouais, du coup, je me souviens être couché là et il y avait une petite capsule, ça s'appelle les M6 Black Music, juste avant la série, elle commence. Et je me souviens voir le clip, donc au début, sur le moment, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le clip de Boulbi et je vois Booba, du coup, descendre dans le truc avec ce son très connu où ça fait Boulbi, Boulbi. Et je me souviens me lever ce soir-là, ne pas regarder Charm, aller dans la chambre où il y a l'ordinateur familial, là, le Windows 98,
À
l'allumer. Et à
l'ancienne.
l'époque, c'était pas YouTube, c'était Dailymotion,
Ah
ouais.
ouais.
Et j'ai tapé rap français sur Dailymotion et je suis tombé sur un clip qui s'appelait et c'était la star à l'époque du rap quand on était au collège de Cynique Autodestruction
Ah purée, ouais.
et ouais et du coup j'ai regardé ce clip et le lendemain il y avait un grand Virgin dans ma ville, je suis de Bordeaux et pour les Bordelais ça leur parlera parce que c'était le point de rencontre de tout le monde ce Virgin. Et je suis allé au Réan Rap et j'ai pris genre juste un CD au hasard, qui est toujours là derrière moi en plus. Et c'était un vieux, c'est pour le coup, c'était vu que j'ai pris au hasard, c'était un vieux CD d'un rappeur underground, tu
Ouais.
vois. Alors aujourd'hui, ça parle qu'aux aficionados, mais il avait quand même sa petite carrière. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chiner et je me suis penché sur le rap américain. Et là, le rap américain, ça m'a fait avoir tout plein de rêves, tu vois. C'est là où je suis tombé, où j'ai regardé La Haine comme tout plein de gens. C'est là où j'ai commencé à regarder Menace to Society, les films comme ça américains. Mm-hmm. Et quelques temps plus tard, on m'offrait à Noël mon premier album de rap américain qui était Paper Try de T.I., tu vois. Mm-hmm. Et ça y est, c'était fini. Je voulais commencer à m'habiller large, alors que j'étais comme ça. Ça ne donnait rien du tout visuellement. C'était... Et ouais, j'ai souvenir. Et c'est la même année à peu près où je commence le basket. Et donc, où, du coup, je rencontre un de mes meilleurs amis. Et lui, il est à fond dans le rap américain aussi. Et ça développe autre chose. Tu vois, je commence à me dire en tout cas que j'ai mon truc et je commence à m'y intéresser. Je deviens incollable sur ça. Et pour te dire, genre, moi, les premiers sous que j'ai fait dans ma vie, c'est comme j'avais la chance de pouvoir graver des CD chez moi. J'ai gravé des mixtapes, des exclus de rap américain, etc. Parce que j'avais trouvé un site qui sortait les trucs en avance. À l'époque, tu télécharges en MP3. Et je vendais ça au collège.
Ah, purée.
En fait. Et donc, du coup, je suis passé à la primaire. Et j'étais le gars qui pouvait offrir. Parce que j'avais ça chez moi gratuitement. Tu sais, les stylos qui sentent, là, les feutres, oui. Trucs dont les filles raffolaient.
Ouais, ouais, ouais.
Donc j'étais le gars à la récré qui passait ça à la primaire, et au collège je suis passé au le gars qui a les dernières mixtapes de rap américain.
Ah ouais, oh là là. Le roi de la cour de récré, quoi.
Donc du coup j'ai saoulé. Non mais même pas en plus, parce que les gens, tu sais, la seule fenêtre où genre il y avait un Emric existe et on respectait le mec, c'était quand ils venaient chercher leur truc, tu vois. Mais sinon, zéro. Et c'est plus en grandissant plus tard. En fait, je pense que c'est ça pour les gens qui ont une passion. Et je pense que beaucoup vont le retrouver, peu importe ce que c'est, la passion quand t'es jeune. Comme tu l'apprends très vite et que tu la tailles, en fait. Forcément, toi, quand t'arrives peut-être lycée et après lycée, les gens ont l'impression que t'as un truc en plus. Mais en fait, c'est un truc que toi, tu t'affectionnes depuis toujours, oui. Et t'es juste très à l'aise avec.
Complètement.
Et voilà, et du coup j'ai ce souvenir là un peu plus joyeux pour le coup de l'adolescence où je commence à trouver mon truc en fait, et mon truc c'est ça, et ça m'ouvre pas mal de trucs, et voilà, et j'ai continué au lycée, etc.
Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que t'avais vraiment deux types d'amis, parce que je trouve que ça se reflète dans ton écriture. On en reparlera après, mais dans le livre que tu m'as envoyé, que j'ai pu lire, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. T'as vraiment cette ambivalence entre l'écriture un peu populaire, entre guillemets, un peu urbaine, qu'on reconnaît dans les groupes que tu pouvais fréquenter, mais aussi ce truc un petit peu plus sensible, un petit peu plus poétique et tout. Et c'est assez drôle, en fait, parce que je trouve que t'as vraiment ces deux identités qui se mélangent, en fait, et qui font ton écriture, et qui, j'imagine, font aussi ta personnalité. C'est assez intéressant.
C'est marrant que tu me dis ça, parce que j'ai l'équivalent de gens que je considère comme ma deuxième famille, et donc c'est la famille de mes meilleurs amis, et leur grande sœur, on faisait un repas tous ensemble, et leur grande sœur était là, et elle a acheté mon livre, et elle m'a dit « Ouais, Emric, est-ce que c'est voulu ?» Elle m'a dit, parce que c'est bien écrit, bien entendu, il y a des jolis mots, etc., et le langage est quand même propre, mais tu parles comme tu parles à l'oral, en fait, est-ce que c'est voulu ? Et je lui ai dit, bah ouais, enfin c'est même pas que c'est voulu, c'est que c'est naturel, tu vois. Et je sais que c'est la grande difficulté, au-delà de mon livre et de la promotion que je fais de mon livre, c'est le message que je prône avec tout ça, c'est le fait d'essayer d'imposer de nouvelles références, en fait, parce que je prends toujours le parallèle, hein, mais avant le rap, quand j'étais petit, c'était pas la musique qui était cool. Au collège, la musique qui était cool, c'était Oasis, c'était les Beatles, c'était écouter ça. Aujourd'hui, la musique la plus populaire de France, c'est la dite, ce qu'ils appellent musique urbaine. Qu'est-ce qui a permis que cette musique-là atteigne ce seuil-là, au-delà de tout le travail des artistes ? C'est surtout que l'indépendance a été permise dans le milieu musical, et que forcément, si tu peux t'organiser tout seul, t'as forcément des nouvelles rêves qui vont émerger. En littérature, ça, c'est pas possible. Donc, en effet, moi, quand j'arrive en maison d'édition ou que je me place ou que les gens me lisent, j'écris pas pareil que Rimbaud. Genre, c'est pas Victor Hugo, c'est pas Les Misérables que je vais écrire. Et en plus de ça, moi, mes premières rêves de littérature, parce que j'ai pas lu pendant longtemps, ce qui m'a réconcilié avec la littérature, c'était des mecs qui écrivaient, c'était la Beat Generation aux États-Unis, Bukowski, etc. Ils écrivent comme ça, ils écrivent comme ils sont dans la vie, comme ils parlent. Et donc, ouais, moi, ça se ressent. Mais Mais la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie quand j'ai commencé à écrire, c'est des gens qui me parlaient et qui me disaient: ah ouais, c'est toi qui écris comme ça. Alors, au début c'était violent parce que j'avais jamais comment le prendre.
J'imagine.
Mais oui, ouais, je suis capable de autant dans la vie. Enfin, moi, je me sentirais pas du tout mal à l'aise si tu me mets face à quelqu'un qui a fait l'ENA ou Sciences Po et qu'on doit parler toute une après-midi. Je le tiens sans souci. Et autant si je me retrouve en bas d'un bat et je dois parler avec des gars de mon enfance, je me sens tout aussi à l'aise, quoi. Et je change pas, je m'adapte même pas. C'est juste que j'ai les deux et que les deux, du coup, ça fait un tout et ça se ressent dans mon écriture.
Oui, complètement. On va revenir un tout petit peu à l'adolescence parce que là, on a teasé des sujets dont on va parler un petit peu plus après. J'aimerais bien te poser la question que je pose à tout le monde, que je trouve super intéressante. C'était quoi ton rapport au corps quand tu étais adolescent? Parce que c'est vraiment un sujet qui amène à comprendre un petit peu plus les gens, je trouve. Et j'aimerais bien savoir, toi, comment ça s'est passé de ton côté.
C'est une question très intéressante. Pour moi, je la vis de manière très personnelle parce que c'est vrai que, si tu veux tout savoir, c'est une problématique, mon rapport à mon corps, que je suis en train, à 27 ans, de me réapproprier.
D'accord.
Donc, j'étais... Pour te dire, j'ai un souvenir, peut-être, qui peut illustrer ça. Ma maman est assistante maternelle. Mmh. Et j'ai souvenir... que donc du coup elle m'amenait à l'école en poussette, donc du coup je marchais tout le temps à côté de la poussette, etc. Et parfois après, en grandissant, je prenais l'habitude de l'accompagner parfois quand elle faisait ses promenades. Moi, quand un petit garçon voulait me donner la main pour avec Emery qui me donne la main, j'avais littéralement des frissons dans le corps.
Ah ouais.
Et je suis quelqu'un de pas du tout tactile.
D'accord.
c'est vraiment à ce point là c'est à dire okay. que donc du coup mon rapport à mon corps quand je suis adolescent. Et je pense aussi ce qui est important de dire, et il faut déconstruire ça, moi en tout cas, les gars de ma génération, la plupart de mes gars de génération, ils ont fait leur corps, ils l'ont aussi découvert via le porno, parce que beaucoup de mecs sont éduqués et leur éducation sexuelle se fait via
Bien
ça.
Sûr.
Moi, j'y ai pas du tout eu accès.
D'accord.
Donc aujourd'hui, tu vois, j'en consomme pas du mm-hmm. tout. Et c'est un truc qui. Je pense que. Mais tout à l'heure, tu vois, on parlait. Pour le rap, par exemple, quand t'as un truc jeune, tu le développes, donc c'est comme ça que ça se développe par la suite. Ça, forcément, je l'ai pas eu jeune. Donc moi, c'est vrai que j'y trouve pas d'intérêt.
Mm-hmm.
Mais du coup, ça a joué, je pense aussi.
Certainement,
ça
oui.
a joué parce qu'il y a ça et y a aussi le fait que, clairement, ça joue aussi, je pense. Mais pas que sur le plan, attention, pas que sur le plan sexuel, mais sur le plan juste de
ouais,
l'intimité,
ouais, bien sûr.
De ton rapport dans la glace, comment te positionner et tout. Moi, jusqu'à très tard, jusqu'à mes 19 ans, j'étais dans la même chambre que mon petit frère.
Ah
donc
oui.
du coup...
Ça aide pas pour se découvrir.
Non. Non. Sur tous les plans, tu vois, l'intimité, que ce soit... là, je quitte 30 secondes le rapport au corps,
Bien
mais
sûr.
Moi, ne serait-ce que pour passer un appel à mes amis. J'appelais jamais.
Ouais.
Parce que j'avais l'impression, tu vois, de dévoiler, tu vois, une part de mon intimité, puisque tu racontes des trucs, et moi, je suis pas mmh. à l'aise avec ça. Je suis quelqu'un de très pudique et tout. Et donc, du coup, que ce soit sur des points comme ça ou sur des points plus pour revenir plus physique rapport au corps, je sais que j'avais un rapport distant à ça. Et en plus de ça, après ça change peut-être selon chaque personne, mais moi, en vrai de vrai, dès la quatrième, troisième, dans mon collège, les jeunes découvraient leur rapport au corps, ils avaient commencé aussi à avoir des histoires, tu vois, entre filles, garçons, etc.
Mmh.
Et moi, en plus de ça, je te dis honnêtement, je t'ai dit, on ne me donnait pas l'heure. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait même pas... Il y avait même pas... Il y avait... J'avais même pas ce rapport-là non plus, tu vois.
Oui, je vois.
Je me souviens... Et comme j'avais ce côté encore très timide qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment avec les filles,
mm-hmm.
et ben, encore une fois, une anecdote précise, mais je me souviens qu'un jour, j'étais au collège, il y avait une fille que je trouvais trop belle qui s'appelait Sonia dans ma classe. Et c'était l'une des seules feuilles populaires qui me parlait un peu, tu vois. Et on était au fond du cours de maths. Et elle m'a dit, elle s'est retournée vers moi, elle a dit, mais Emric, t'as déjà embrassé une fille? Et tu sais, c'était la question, à l'époque, si tu disais non, c'était, et j'ai un poteau à moi qui s'est retourné et qui attendait la réponse. Et moi, comme je mentais pas, j'ai dit non. Et je me souviens, j'étais tout rouge, j'étais gavé, gêné. Alors
bah oui, tu m'étonnes.
Pardon, je dis gavé, c'est mon côté bordelais. J'étais très gêné. Et parce que, alors qu'en soi, il n'y a pas de honte, tu vois, tu as le droit de ne pas en avoir.
Oui, mais bon, à cet âge-là, mais... c'est toujours la question un peu, ouais. Un peu qui tue, quoi.
C'est ça. Mais du coup, j'avais ce truc. Mais moi, en fait, c'était pas ça qui me gênait. C'était pas le nom, en fait. Le nom me gênait pas. C'était le fait d'évoquer ouais. ça qui me gênait. Mmh. Et du coup, et pareil, je me souviens que première petite amie, je l'ai quand je suis en troisième. Et moi, mon rapport au corps, je pense, était tellement... je m'en coupais tellement que du coup, je me souviens que les premières fois que je suis avec cette petite amie, quand je veux genre juste lui poser la main, tu vois, dans le dos ou etc., ou quelque part, etc., je demandais autorisation. Je dis, je peux. Alors aujourd'hui, ce serait considéré comme, avec toutes les problématiques qu'on en parle plus de consentement et tout, genre tant mieux, très bien, mais je vais pas faire le faux héros qui avait déjà ça en tête, etc.
Bien
c'est
sûr.
Pas du tout ça, c'est parce que moi j'étais pas assez à l'aise pour.
Mm-hmm.
Et je me souviens pareil, quand j'étais au collège, tu sais, il y a eu un jour, il y a eu cette mode qui arrive où les gens se faisaient la bise
ouais.
pour se dire bonjour. Ouais. Ça arrivait au collège, ça. Moi j'étais tellement gêné de ça. Que je me souviens demander à une fille qui s'appelle Julie, qui était considérée comme une amie à moi, par MSN la veille, ah, est-ce que le matin je peux te faire la bise
au
collège ?
Ah ouais, vois. Je comprends ce que tu veux dire en plus, parce que je pense qu'on n'est pas quand même assez nombreux à avoir ressenti cette petite gêne. Moi je sais, pour reprendre cet exemple-là, qu'au collège pareil, j'avais beaucoup de difficultés à faire la bise aux garçons. Par exemple, tu vas avoir un groupe d'amis avec, je sais pas, 2-3 meufs et un ou deux garçons. Je vais faire la bise aux filles sans problème, mais alors par contre les garçons... C'est impossible, quoi. Parce que t'as ce truc de pudeur, un peu, parce que c'est très français de faire la bise, hein. Tu vas faire la bise aux États-Unis, ils vont pas comprendre. Tu te rapproches comme ça du visage, c'est spécial, quand même. Et il y a un côté très pudique, quand même, et très, très intime à faire la bise. Donc je comprends ce que tu veux dire. C'est quand même quelque chose assez spécial, quand tu y penses.
Je sais pas si, dans le rapport au corps, toi, tu englobes le rapport à la beauté.
Tu peux.
Entre guillemets, à comment on se projette. Mm-hmm. Mais moi, je sais que... J'en parlais hier avec une amie. Je t'ai dit, aujourd'hui, je fais 1m72. Quand j'étais vraiment considéré comme le petit au collège, parce que vraiment, j'ai poussé d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu une seule poussée de croissance dans ma vie. Moi, c'était entre la... c'était entre la 3e et le lycée. Et j'ai pris genre plus de 15 cm en un été et tout.
Ah donc oui.
C'était énorme. Et ça arrivait d'un coup. Et je sais que malgré tout, j'ai jamais ressenti le côté. En fait, quand j'étais au collège, c'était oui, j'étais le petit, mais ça m'a pas créé de complexe, par
ouais,
exemple.
Je,
donc, je te dirais pas que j'ai pas non plus nourri pendant mon adolescence des complexes par rapport à mon physique. Je me souviens pas d'un truc où je me suis trouvé moche, etc., dans la glace, etc. Donc du coup, moi, je différencie vraiment les deux, mais c'était vraiment, ça cristallise encore plus le côté que c'était mon rapport à l'intimité, mon rapport à ce qu'on me touchait, tout ce qui a fait que quand je grandis, moi, dans mes amis, jusqu'à... Mais je te dis, c'est des problématiques récentes, c'est-à-dire que c'est là, en 2020, que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a fait un câlin comme ça, et ça m'a pas gêné.
Ah, purée.
Mais moi, avant, je suis une galère. C'est-à-dire que moi, mes amis à la fac, quand on faisait des soirées, quand il y avait des au revoir avec les gens qui partaient en Erasmus et tout, ils me demandaient, Emric, je peux te faire un câlin ? Ils me demandaient ouais. avant, parce que moi, c'est... C'était pas possible. Mmh. En gros, si on se touchait, entre guillemets, c'est que j'avais une relation intime avec toi, et quand je suis dans l'intime, ça va, tu vois. Mais après, je sais pas s'il y a des sujets tabous.
Non, tu peux parler de ce que tu veux.
Si je peux parler. Mais quand je t'ai dit, oui, c'est encore une problématique que je me réapproprie aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant des années, du coup, le fait que je n'ai pas forcément de rapport intime avec mon corps à moi, mm-hmm. fait que j'ai dédié, en grandissant, parce que forcément tu grandis et tu connais ta sexualité, etc., mm-hmm. ben moi j'ai dédié mon rapport à corps que au corps de l'autre.
D'accord.
Et toujours me mettre au service du corps
okay.
de l'autre.
C'est super intéressant.
Pour tout te dire, c'est là au cours de la dernière année, parce que j'ai eu une aventure avec du coup avec mon ex que j'embrasse, mais du coup qui m'a permis de pas mal avoir un rapport de me redécouvrir ceci. Mm-hmm. Et là il y a quelques semaines de ça, tu vois, il m'est même arrivé une anecdote où là à 27 ans, genre j'ai capté, ah ouais, tu connais pas ton corps. En fait, tu t'es tellement construit dans le rapport à l'autre vis-à-vis de son corps à elle, de comment te mettre au service d'eux, etc. Et moi, c'est rentré, ça s'est imbriqué avec des trucs de déconstruction où je me suis dit, bah, quand même, c'est quand même dingue qu'une femme elle subisse tout dans la société et tout le poids qu'on vous met sur les épaules et qu'en tant que maître, tu sais même pas ce que c'est un clitoris. Non, non, il faut te déconstruire, t'as un devoir de savoir certaines choses, ouais. Tu vois. Et donc, du coup, de déconstruire ça, ce qui est cool, parce que j'en suis content, mais en fait, j'ai tellement avancé sur ça et j'avais jamais pris le temps de me connaître moi-même, ont fait que je me suis toujours, toujours, toujours construit dans le rapport à l'autre pour le corps de l'autre. Et le mien, il y a certaines choses que je découvre qu'aujourd'hui, quoi.
C'est très intéressant ce que tu dis, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, mais c'est vrai qu'effectivement, si t'as jamais pris le temps de te connaître vraiment à proprement parler et que tu t'es dédié aux autres, forcément, il y a un moment donné où tu te connais même pas, en fait. C'est étonnant d'en arriver à 27 ans et de se rendre compte de ça. Mais en même temps, c'est inévitable, d'une certaine manière.
Ouais, c'est... Mais après, attention, j'en ai jamais nourri un truc frustrant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je m'en rendais même pas compte. Le seul truc que je m'en rendais compte où vraiment je voyais qu'il y avait quelque chose et que ça tendait, que je tendais peut-être à vouloir l'améliorer, c'était dans mon rapport plus amical ou familial, tu vois.
D'accord.
Tu vois le truc du petit enfant, ça a demeuré, genre moi je voulais pas arriver, être tonton et pas être capable de prendre un enfant dans les bras, ce qui aujourd'hui, j'ai des neveux et nièces à qui je fais un gros bisou et je prends du plaisir à le faire, tu vois, mm-hmm. C'est possible, mais c'était plus... là, vraiment, je te dis, au cours de la dernière année, quand une personne, je m'en souviens très bien, j'étais à Paris dans le 18, et au moment de partir pour prendre son Uber, elle m'a pris naturellement dans ses bras, et moi, ça m'a marqué de fou.
Ouais.
Je me suis dit, ah ouais, là, c'est un truc de fou que tu te laisses faire ça, et que ça t'a pas gêné, que ça t'a pas gêné, parce que sinon, moi, c'est zéro. C'était plus ce rapport-là qui me gênait. Après, dans mon rapport à mon corps dans la sexualité, tu vois, c'est un truc que j'ai conscientisé que récemment, mais je le vis pas mal parce que ça m'a permis de me déconstruire sur plein d'autres choses et pour le coup de pas être cliché sur plein d'autres choses, donc ça c'est
ouais, cool. C'est clair.
Mais maintenant il faut que je m'occupe de moi.
Donc après le lycée, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours post-bac, ce que tu as fait comme études, quel parcours tu as suivi, est-ce que ça a été difficile aussi pour toi de trouver ta voie?
C'est difficile de trouver ma voie, non, parce que dans ma vie, j'ai eu trois phases. Quand j'étais petit, je voulais être ingénieur pour construire les fusées à la NASA, je ne sais pas pourquoi. Deuxième phase, j'ai voulu être architecte jusqu'en troisième. Et après la troisième, j'ai direct su que je voulais faire de la communication. Donc, le seul truc qui a été difficile, c'est que les conseillères de soi-dite orientation sont parfois des conseillères de désorientation. Et moi, je suis arrivé dans mon lycée, je lui ai dit « je veux faire l'ISIC ». Et elle m'a dit, l'ISIC, ça n'existe pas. Alors que ma sœur est à l'ISIC. Donc, j'ai dit... il s'avère que c'était une succursale dans la fac de Bordeaux 3, mais ça existait.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai fait une... Alors, il y a peut-être une année très importante, pour le coup, dans mon parcours que je dois parler. C'est que quand je suis sorti du lycée, moi, je suis parti en droit dans un premier temps. Et il s'avère que pour différentes raisons, j'ai dû me mettre à travailler parce qu'il me fallait de l'argent. Donc du coup, je suis devenu assistant pour un enfant autiste, qui est une année qui m'a marqué, parce que c'est cette année-là que j'ai commencé à écrire, et après, même sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et du coup, j'ai fait ça, et c'est après cette année-là que je suis rentré en fac de communication, dans laquelle... alors moi, la fac... moi, c'est après le lycée où toute ma vie s'est transformée réellement. Mais ça, c'est pas tant du côté études, c'est du côté plus personnel. Mais dans le côté études, ouais, j'ai fait une fac de communication qui était très, très, très enrichissante parce que c'est la fac et si tu c'est beaucoup théorique. Mais si tu lis toute la théorie, tu vas en tirer des choses incroyables. Tout à l'heure, on parlait, quand tu as dit l'exemple, la bise chez les Américains, moi, c'est à la fac que j'ai pu lire Roland Barthes, mythologie et déconstruire tous ces rapports aux sphères qu'on a dans les différents pays, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et après la fac, j'ai fait le choix de... Je voulais du concret pour le coup. Et du coup, je me suis autofinancé et je suis parti faire une école de publicité, sub de pub. Et donc là, c'était beaucoup plus de concret. Comme je t'ai dit, professionnellement, j'ai eu ce que je cherchais là-bas. Maintenant, le rapport à cette école, il a été plus violent dans le sens social où j'ai clairement remarqué, on m'a fait clairement remarquer que je n'ai pas du même endroit que certaines personnes, etc. Et encore, c'était que sub de pub, entre guillemets. Je parle. Genre,
Ouais.
je prends le cas de mon petit frère qui a fait une grande école. Pour lui, ça a dû être encore plus violent, parce que dans les grandes écoles, la différence de classe est encore
Ouais,
plus
c'est clair.
marquée. Mais voilà, mon parcours après la fac, en fait, c'est que si je dois parler de mon parcours, de mes études, comme j'ai toujours pris mes études comme vecteur de combat et que moi, il n'y a pas de cassure, tu vois, entre qui je suis et ce que je fais à l'école,
Ouais.
forcément, je suis obligé de parler de la période, en fait, de la faculté et
Ouais.
de l'école, plus que des études à proprement parler.
Ouais, je
Après, je sais
comprends ce
pas
que
si
tu veux
c'est ce que
dire.
tu veux aborder,
On peut en parler.
mais ouais, du coup, moi, la fac, ça arrive avec un moment où je te dis, ça commence par cette année-là, où donc, du coup, je suis assistant pour un enfant autiste.
Ouais.
Je suis pas du tout le mec le plus patient du monde de base,
Ouais.
mais là, t'es obligé de... Et mine de rien, tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand tu grandis, là aujourd'hui, je conscientise des choses de mon adolescence où je me dis, ah, en fait, c'est ça qui a eu un impact sur moi. Et c'est pareil, c'est mon expérience avec cet enfant-là, avec Johan. Aujourd'hui, je me dis que forcément, dans ma capacité à poser mon prisme, à me mettre à la place de l'autre, vu l'année où c'est arrivé, ça a été un truc charnière. Parce que tu peux pas passer un an avec un enfant comme ça. Moi, déjà, premier jour où j'arrive avec cet enfant, je suis dans la cour de récréation. J'ai pas forcément cette barbe-là que j'ai à l'époque et tout, donc je fais jeune, tu vois, quand
Ouais.
même. J'ai à peine 18 ans, donc je sors juste du lycée.
Ouais.
Et donc je suis dans la cour de récréation, tout le monde me repère pas et je suis en retrait. Et de toute façon, j'ai pas de rapport encore très étroit avec Johan. Et je vois un autre gosse du collège arriver et se foutre de la gueule d'une manière ignoble face à lui, tu vois. Et donc, déjà dans les premières minutes, je me suis dit, ah ouais, en fait, le collège c'est si violent que ça sur certaines choses. Et du coup, ça me pousse à. Bon, j'interviens évidemment. Et puis ça me pousse à plein de trucs. Et je te dis, je commence l'écriture cette année-là. Et derrière, j'enchaîne avec la fac. Et la fac de com, je rencontre des gens. Des filles. Moi, je dis toujours, c'est des femmes qui m'ont sauvé. Parce que sinon, j'aurais été un petit misogyne et lambda de base, tu vois, qui se déconstruit pas sur les choses. Je pense que j'avais subi un arrachement à la culture de par la classe populaire dans laquelle j'étais. Et je m'y remets, je commence via des femmes à aller au musée, à lire certains livres, etc. Et du coup, je commence à me déconstruire sur tout plein de choses. Et je commence à appréhender d'autres sujets, à me mettre à la place d'eux, en fait, tout simplement. Et donc forcément ça développe le truc. Et là, pour le coup, je t'ai dit autant pendant très longtemps, et ça se ressent de toute façon dans mon écriture, autant pendant très longtemps, on me donnait pas l'heure avec les filles, autant là à la fac que ça y est, je commence à fréquenter des femmes pour le coup. Et ça change, en vrai, ça change ma vie, tu vois, parce qu'il y a peut-être des. Moi, clairement, il y a toujours ce truc de éviter ou inviter aux soirées, où je suis pas forcément plus invité aux soirées avec mes potes parce que quand les gens commencent à capter, Emric, quand il vient avec certaines personnes, et tu sais, les clichés des gens, malheureusement, n'ont pas envie que certaines personnes
Ouais.
voilà, viennent aux soirées. Donc, du coup, moi, mes soirées, je les passe soit seul, mais je suis en paix avec ça, soit avec une femme. Et donc, du coup, c'est soit je me découvre moi-même, et soit quand t'es avec une femme, tu te découvres aussi toi-même, soit je me découvre moi-même et je découvre quelqu'un d'autre. Donc, franchement, ça change ma vie. Moi, mes années fac, elles sont charnières. C'est à partir de 20 ans où il y avait. Tu sais, quand j'étais petit, du collège ou lycée, j'ai toujours eu cette petite voix en moi où je savais en vrai que j'étais insensible. Que moi. Certifié de Loverboy, ça fait longtemps que je le savais. Mais la société te rattrape. Et c'est là où tu commences à adopter, ah, un garçon c'est ci, un garçon c'est ça, et où tu. Et en fait, ça m'a juste permis, les années fac, de faire exploser cette voix qui était vraiment moi, qui était vraiment moi, et de la faire résonner, en fait. Et même sur les sujets où je te dis, j'étais engagé, j'étais quelqu'un qui prenait position, mais là à la fac, genre ça explose et c'est vraiment pour le coup, je monte des trucs, genre je monte des trucs de moi-même et tout. Et ça m'emmène jusqu'à la période sub de pub où j'entre dans sub de pub. J'entre en plus avec 19 à mon oral.
Bravo.
Merci. Et moi je les préviens tout de suite que. Je pense qu'ils l'ont pris un peu au-dessus, tu vois. Ils pensaient pas que je disais. Je pense qu'ils pensaient que c'était une posture de ma part. Mais moi, je leur dis tout de suite que je vais faire un mémoire anti-publicitaire dans une école de pub. Ils m'ont dit ok. L'année, elle est passée et je suis arrivé avec mon mémoire. Et c'était pas dans le sens anticonformiste pour me faire remarquer, mais c'était que pour moi, on avait une responsabilité en tant que communicant. Et quand tu branches autant d'argent que dans la pub, forcément, tu en as une plus grosse. Et c'était. Du coup, j'ai fait un mémoire sur le rôle de la femme dans la publicité et où se trouve la femme racisée. Et pour leur dire, ben, si les femmes ne sont pas là, si les femmes ont ce rôle-là, si les femmes racisées sont absentes, c'est de votre faute. Donc c'est à nous de nous prendre en main. J'ai eu la chance d'être évalué par des personnes qui m'ont dit on n'est pas d'accord avec vous, mais on admire le courage que vous ayez de venir nous dire ça. Et j'ai eu une bonne note. Mais ouais, du coup, c'était un peu l'aboutissement. Et c'était l'année aussi sub de pub où je sortais mon premier livre. Et du coup, j'ai sorti mon premier livre, j'ai monté ma première asso. Et là, à partir de ce moment-là, après, on part sur le reste et sur l'après et tout ça, mais c'est là où j'ai encore plus professionnalisé tout ce que je faisais.
Bon, on va en profiter pour parler un petit peu plus d'écriture, du coup. C'est une excellente transition. On va repartir un petit peu sur les années collège, puisque j'ai pu lire que tu avais un attrait pour l'écriture à partir de cette période-là aussi. Et tu parles notamment d'une professeure d'histoire qui lisait tes dissertations chaque vendredi devant la classe, et qui disait que tu avais vraiment un don pour l'écriture. Selon toi, j'aimerais bien te demander d'où ça vient, cet attrait pour l'écriture, et d'où vient aussi ce talent, parce que tout le monde ne sait pas forcément écrire.
Bah alors, juste pour corriger un petit truc, c'était au lycée, ça.
Autant pour moi, au lycée, ok.
Et par contre, tu vois, moi, je le voyais pas du tout, comme je le conscientisais pas du tout, j'avais pas d'attrait pour l'écriture. Pour moi, je ne savais même pas ce que c'était. C'est-à-dire, pour tout te dire, j'écoutais beaucoup de rap. J'ai jamais essayé d'écrire un texte de rap dans ma chambre. Pour autant, je faisais que ça en écouter. Donc oui, le premier rapport, il est là, mais je ne le conscientise pas du tout. Il s'avère que j'aime l'histoire et que pour moi, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas des bonnes notes en histoire, parce que tu apprends par cœur et tu recraches, tu vois, tout bêtement. Et donc, du coup, moi, j'avais des facilités pour apprendre, donc c'était facile. Mais du coup, ça m'ennuyait. Et comme ça m'ennuyait, le seul truc que j'avais trouvé, c'était de prendre des risques et de à chaque fois, ma dissertation, la faire trouver un postulat très fort. Tu vois, soit je racontais une histoire, soit je... Enfin, voilà, c'était ça. Et donc, du coup, c'était mon année de terminale où ce prof qui... Ça... J'aimerais bien lui rendre hommage, retrouver son prénom, mais je m'en souviens plus. Mais...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mais en tout cas, bonjour à elle. Pour ceux qui étaient à Montesquieu ces années-là, c'était une prof avec les cheveux courts, si un jour déjà entendre ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que une fois ça arrivé, elle a trouvé. En fait, tu sais, elle faisait ce truc de prof très douloureux pour les autres où elle rendait les copies par note.
Oui.
Et donc, du coup, moi, je suis arrivé une fois en haut de la pile et elle m'a fait une première remarque. En fait, elle a vu que c'était toutes les 2 semaines là, quand on faisait les devoirs, que je faisais ça et que à chaque fois j'arrivais en haut de la pile. Et donc, du coup, elle me demandait de lire. Et je pense qu'il en faut des professeurs comme ça, parce que même si j'ai pas conscientisé moi le truc, ça m'a donné de l'aplomb. Tiens, à tel point, je me souviens, moi, à l'époque, c'était l'époque de Facebook, mais quand je suis sorti du bac, ils m'ont pressé d'écrire, viens de rendre la meilleure copie de l'éducation nationale d'histoire, tu vois, pour rigoler. Donc, ouais, elle a mis un truc quand même en moi. Et ouais, je le conscientisais pas comme rapport à l'écriture, en fait, encore. La première fois, je te dis, où je me suis dit, j'écris, bon, même si ça intervient dans l'année d'après, c'est cette année avec Johan, où un jour il finit ses devoirs plus tôt, donc je le laisse faire ce qu'il veut, et moi je tombe sur un concours sur internet et j'écris, mais de base je compte le garder pour moi. Et en fait, à l'époque, je fréquente une fille qui prend le concours et qui me l'envoie sans me dire, et un jour je reçois un courrier chez moi comme quoi j'ai gagné le concours. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai pris une logique très sportive du truc. Je me suis dit, à l'époque, l'argent était un truc qui omnibulait pas mal mon esprit, et je me suis dit, s'il y a du bif à faire dedans et que t'es fort. Maintenant que t'es fort, en fait, t'as le devoir de prouver que t'es le meilleur. Et j'ai pris le truc en mode ego trip, je pense, de rappeur que j'entendais beaucoup depuis mon enfance. Et puis, comme j'ai fait 12 ans de basket et dans ce truc-là sportif, je me suis dit, il faut juste que tu prouves que t'es le meilleur. Et donc après, je pense qu'on va en parler plus tard, mais mon rapport, il a continué à ça. Mais sinon, juste à d'où c'est venu? Moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur sur ça, c'est-à-dire que je dis tout souvent dans un de mes textes, je crois que je le dis dans le livre, je dis ouais, je suis dactylo des cieux, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a des images qui me traversent et qui arrivent, et me demander d'où ça vient, moi, je sais pas, tu vois. Après, j'ai une mécanique qui s'enclenche et que je maîtrise parce que je pense déformation de ce que j'ai écouté et tout, mais c'est très très abstrait pour moi de cibler tout ça vraiment. Je sais juste que je ne l'ai pas conscientisé comme rapport à l'écriture quand ça a commencé. Effectivement, j'ai toujours été un enfant avec beaucoup d'imagination, ça on me l'a toujours dit. Mais j'écrivais pas des petites histoires ou quoi, j'avais juste beaucoup d'imagination. Moi aussi, si tu veux savoir, mon premier rapport à. Mais pareil, c'était pas conscientisé comme tel, mais je me souviens que quand j'étais petit, je me faisais des scénarios dans ma. Les deux premiers scénarios que je m'amusais à faire, c'était au moment du coucher. Je mélangeais des dessins animés, je faisais un univers commun et je me disais, je vais rêver de ça le soir. Donc du coup, je faisais ça avant de me coucher. Et le deuxième truc, c'est je jouais pas mal à FIFA. Et donc dans FIFA, il y a un mode qui est le mode carrière et donc où tu peux évoluer. Et moi, je jouais pas juste au mode carrière. Je faisais ma carrière, c'est-à-dire que moi je m'inventais tout un truc autour, c'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, je me disais, ah, quand j'allais changer d'équipe dans le monde carrière de FIFA, ben, j'imaginais, je disais, c'était parce que là, l'entraîneur, sa femme avait dû déménager là-bas, donc il la suivait, c'est pour ça qu'il quittait son club de cœur et tout. J'ai toujours eu ce truc de scénariser tout ce qu'il y a autour de ce que je faisais. Mais la vraie prise de stylo, elle arrivait mon année après la fac, mon année après le lycée, pardon, après ma terminale.
J'ai pu lire aussi qu'au début de ta carrière, tu avais pour habitude de prendre part à des sessions de jam, accompagnées de musiciens et de chanteurs, pour imposer, comme tu le dis, ton style d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces expériences? Et j'aimerais bien aussi savoir, selon toi, quel lien il y a entre la musique et l'écriture?
Ouais, mais c'est. Alors, le mot. J'ai souri au mot carrière parce que moi pour moi, il y a pas,
Ça reste une carrière. C'est ton syndrome de l'imposteur qui parle.
Sûrement. Ouais, ben justement, quand je t'ai dit oui, ça a évolué, je me suis coupé à ce moment-là parce que je me suis douté que peut-être tu voudrais en reparler. Mais ouais, en fait, le moment où je t'ai dit, où je l'ai pris en mode logique très sportive et de prouver que j'étais le meilleur. On va rentrer dans la partie d'interview où les gens vont peut-être se dire à lui, il a vraiment beaucoup d'ego. J'en ai, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là où ça va se manifester. Mais c'est que moi, pour moi, ça va peut-être paraître sévère, mais tu peux pas te revendiquer écrivain quand t'écris pour toi. C'est-à-dire que si tu gardes les trucs dans ta chambre, tu écris, ok. Mais c'est écrire pour soi, c'est peut-être même une étape pour toi ou quoi. Mais si tu veux vraiment avoir ce titre-là de te revendiquer quelque chose et de surtout revendiquer que t'es meilleur, t'es obligé de prouver, de le mettre en fait, de le mettre sur la place publique, parce que c'est ça qui est dur en réalité. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait, je l'ai mis très tôt dans il y avait un site à l'époque qui s'appelait Wheel of Words qui permettait, c'était une communauté d'écrivains, tout le monde pouvait poster dessus, et donc je postais et j'avais vraiment des stats élevés, tu vois, donc déjà ça m'a gonflé là-dedans. Et moi, le deuxième truc que j'ai fait, c'est venu très naturellement. Et c'est venu en mine de rien, parce que tu sais, c'est à l'époque où je commence à relire, et moi je lis Bukowski et tout, et à l'époque d'Abit Generation, ces mecs ils prenaient leurs livres et ils allaient les lire dans des amphis. Et moi du coup j'ai très vite décomplexé que pour moi l'écriture c'était pas que l'objet du livre. Donc ouais, des formations, dans le rap il y a les cyphers et tu sais, tu viens kicker et voilà. Et moi, vu que j'allais pas kicker, mais je me suis dit je vais aller aux scènes ouvertes, et les scènes ouvertes je vais... Même s'ils m'attendent pas et qu'ils attendent des gens qui sont là pour chanter ou quoi, je vais mettre une claque aux gens, tu vois, quand même. Et ça a commencé comme ça. Y a un endroit où je faisais souvent le quiz, le Dickens à Bordeaux, où on gagnait chaque semaine avec des amis, tu vois. Donc on avait nos habitudes là-bas. Et un jour, le gars, il m'a dit, je lui ai parlé de ça, il m'a dit, vas-y, viens avant le quiz et tu lis ton truc. Et ça a tout de suite pris. Et donc, du coup, j'ai fait cette scène ouverte, plus une, plus l'autre. Et du coup, moi, ouais, est venu très vite le truc de me dire, je parlais tout à l'heure d'un certain ego, mais moi, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, en termes d'écriture, ça m'a permis de moi-même me dire, à Bordeaux, t'es le meilleur. Parce que si on parle de chiffres, il n'y a personne qui a fait mes chiffres, et moi, d'autres écrivains en session qui viennent prouver le contraire, il n'y en a pas, j'en vois pas. Donc c'est, tu ne peux pas te revendiquer genre comme sur le même plan que moi si jamais tu ne viens pas te confronter à moi, en fait. Et surtout, moi, j'allais dans des zones où je me mettais en difficulté, et mon rapport à la musique, il est pareil, encore une fois, un truc que tu conscientises plus tard, mais à l'époque j'écrivais juste sur papier. Je disais, parce qu'on a vite essayé de me mettre dans la case, mais tu devrais rapper parce que quand t'écris en plus ça rebondit, etc. Et je disais non, moi c'est le livre. Aujourd'hui je me tourne plus vers la musique, à savoir que je prends énormément plaisir à écrire pour les autres, pour des voix. Chose que j'essaye de développer, donc si dans les auditeurs il y en a qui cherchent à avoir des textes, des paroliers, qui n'hésitent pas. Et même moi, tu vois, quand tu vas sur mon Insta, je fais ce que j'appelle des capsules poétiques, et je pose ma voix et je lis mes textes sur de la musique. Quand tu prends l'évolution de quand j'ai commencé et aujourd'hui, tu te rends compte que même moi dans ma diction, c'est de plus en plus rythmé. Est-ce que ça va aller vers quelque chose qu'un jour je vais carrément faire de la chanson, c'est possible, je sais pas, tu vois. Mais c'est un truc qui me parle et que j'ai dans ma tête quand même. Mais ouais, ces sessions jam là, ça m'a permis de... Le truc que j'en garde le plus, c'est la mise en danger. Parce que quand tu viens toquer et que tout le monde est dans une vibe de fou, et tu leur dis, ouais, excusez-moi les gars, moi je veux pas chanter, il n'y a pas d'instrument, juste je vais vous lire un texte. T'es obligé de leur mettre une claque. Et je pense que cette mise en danger là, je l'ai encore plus poussée, puisqu'ensuite j'ai créé le concept qui s'appelle puzzle de mots, MAUX, et de pensée.
Justement, c'est ma question juste après, donc parfait, enchaîne.
C'est juste que ça m'ennuyait, tu vois, de lire mes... En fait, au début, j'y trouvais un truc de lire mes textes et tout, parce que t'as un peu d'adrénaline quand même. Et moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un sujet au stress. Donc ça peut être très chiant pour les gens qui m'entourent, parce que parfois j'arrivais à des scènes ouvertes et mes amis, elles étaient plus stressées que moi, tu vois. Moi je disais avec mon ego, moi je sais que ce que j'ai écrit c'est chaud, donc il n'y a pas de raison. Et j'avais besoin de trouver un truc en plus qui me stimulait plus, et je pense que c'est aussi le côté flemmard de l'artiste où ça me permettait de rien préparer, en fait. Et du coup je me suis dit je vais venir, et les gens, pour vraiment les avoir avec moi, parce que quand t'arrives dans des bars, parfois, quand c'était avant des quiz, c'était compliqué, parce que les gens, ils sont là pour boire leur verre, ils sont pas forcément là pour ça, ils sont là pour décompresser, parler avec leurs amis, il faut les emporter avec toi.
Parce que tu faisais participer le public, c'était puzzle de mots et de pensées, du coup, et si j'ai bien compris, ils te donnaient un thème, c'est ça ?
En gros, ils me donnaient un texte. Je demandais un thème, 10 mots, une situation de départ, une situation d'arrivée, et deux personnages. Ça peut paraître beaucoup de choses, mais en fait, ça, c'est pas beaucoup. Et c'est surtout que les gens s'amusent tellement à donner des trucs différents. Parce que moi, je me suis retrouvé dans des endroits... Je me souviens d'un jour où j'étais dans un festival étudiant. Et ils ont voulu me faire. Genre, tu sais, la situation de départ, c'était Naruto à la pêche. Et la situation d'arrivée, c'était tu croises, je sais plus, Elton John dans un kebab, tu vois, un truc du genre.
Ok.
Et donc, du coup, il y a des gens, parfois, ils veulent te faire de manière marrante, tu vois. Mm. Mais ça te pousse à... Moi, c'est là où j'ai vraiment trouvé le truc qui me galvanisait. Parce qu'il y avait ce truc de « je vais leur prouver ». Et en plus, parce que si je me rate, c'est fini. Surtout ouais. Maintenant, à cette époque-là, avec les trucs Insta et tout, si je bégayais ou quoi. Et donc, du coup, c'était... J'arrivais, je demandais ça. Je laissais passer quelqu'un d'autre à la session jam. Je disais, moi, je me remettais, je mettais ma capuche. Je m'isolais 5 minutes. Et après, je revenais. Et ouais, ça a été les meilleurs retours de ma vie dans le sens où... parce que je pense qu'il y a un côté impressionnant. Donc, du coup, les gens l'étaient énormément. Plus... faut se mettre à la place du public, mais t'es dans ton ambiance, t'es un peu pompette, t'as voulu coincer un mec en lui disant le truc de Naruto, t'entends qu'il arrive à caser ton truc, forcément t'es content,
et
tu vois.
Et puis en plus, si tu le fais d'une manière créative et que ça sonne bien, forcément, ça donne envie d'écouter plus, et c'est, comme tu dis, c'est super galvanisant, et je pense que d'un point de vue extérieur, t'es là en mode, ah ouais, il est fort le mec quand même, tu vois.
Ouais, j'ai deux souvenirs, tu vois. Très clair, il y a puzzle de mots et de pensées la fois où les étudiants ou quand j'ai fini, et à la fin il y en a qui sont venus me dire ah ouais, genre on voulait te coincer mais bien joué, tu vois. Et une autre fois où un mec il a, parce que moi en fait, en plus, ce que je faisais en général, c'est que je faisais mon, parce que quand j'ai commencé à vraiment faire ce concept là, il s'avère que mes amis avec qui je sortais dans ces endroits là, ils ont commencé à déménager. Ça veut dire que y en a plein que de scènes ouvertes. La plupart de mes scènes ouvertes de puzzle de mots et de pensées que j'ai fait, j'arrivais tout seul. Je faisais mon truc, donc je buvais même pas de verre parce que j'étais tout seul, j'étais dans mon truc. Moi, je venais et parfois je les enchaînais dans la soirée en fait. Donc j'arrivais tout seul, je posais mon truc, je faisais mon truc. Et en fait, quand ça se finissait, les gens, alors qu'ils sont dans un truc sympathique et tout, de vouloir peut-être échanger certains, moi je posais mon truc, je m'en allais. Et je me souviens une fois, il y a un gars qui m'a couru après et qui m'a dit ouais, juste avant que tu partes. Est-ce que je peux te suivre quelque part? Est-ce qu'on peut acheter un livre ou quoi? C'était trop chaud et c'était plaisant. Mais ouais, je l'ai pris vraiment. Ça me galvanisait et c'est pareil. Au bout d'un moment, ça devient une drogue, tu vois. Genre là, l'année, ouais. L'année de Corona, de ne plus avoir rien de truc ouvert, de ne plus pouvoir avoir ce rapport-là, ça me manque un peu. Le premier truc que je vais faire, c'est dès que ça va rouvrir, c'est d'aller, c'est d'aller chercher ce rapport-là à l'autre et essayer de me confronter.
T'as bien raison. On va parler de ton premier livre, puisque en 2017, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as sorti ton premier projet qui s'appelait LVDE Recueil de Nouvelles, donc LVDE pour La Vie d'Emeric. Pourquoi t'as choisi de le publier en tant qu'indépendant? C'est quelque chose que tu nous as un petit peu expliqué au début. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'être indépendant en littérature?
Pour moi, ça représente surtout... En fait... c'est qu'il y a, j'ai un certain amour propre. Pour moi, l'injustice, c'est un truc que je supporte pas. Et c'est que c'est même pas, ça représente quelque chose. Pour moi, c'est que c'est inconcevable de faire autrement. C'est-à-dire que je vais pas. Pour illustrer comment ça se passe clairement dans le monde de la littérature, c'est. T'as deux types de contrats. Donc, le contrat où la maison d'édition prend tout en charge. Elle te donne une avance pour ton livre et tu touches 1 ou 2% des revenus de ton livre, mais au moins t'as pas dépensé d'argent. Et il y a le contrat, souvent quand tu t'éloignes des circuits parisiens et tout, et en province, où il y a le contrat type d'auteur qu'on appelle. Donc le contrat type d'auteur, c'est que la maison d'édition, elle va te dire oui, paye cette somme, c'est entre 1000 et 3000 euros parfois, paye cette somme, tu gardes l'intégralité de tes droits. Et nous, on publie ton livre, t'as tant de livres. Et au-dessus de ce nombre de livres, tu rajoutes, tu dois payer en plus toi-même ton livre, tu vois. Mais tu gardes tout. Alors, il y a certaines maisons d'édition locales qui travaillent très très bien, indépendantes, qui travaillent avec leurs moyens et qui essayent de faire au mieux et qui croient des projets et qui les poussent. Et puis, il y en a d'autres maisons d'édition qui travaillent pas de cette manière-là. Elles ont compris le filon, en fait. C'est que si tu vas taper à la porte de n'importe quel personne âgée, adolescent, tu lui dis « Ah, t'es le meilleur écrivain que j'ai lu. Paye ça. » Tu payes. Lui, il est déjà payé. Si en plus, il sait que t'as pas de talent, il a aucun intérêt genre à pousser le truc plus loin, etc. Donc, tu revois jamais ton argent. Et en plus de ça, il y en a certains, ils vont te proposer en plus de récupérer que tant de pourcentage sur ton livre. Pour être vulgaire, sans lettres, un Mac qui fait pas ça à ses prostituées. Genre, c'est, ça n'existe pas. Tu ne fais pas ça à quelqu'un. Et donc, du coup, sauf que vu que c'est le seul modèle, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on propose aux gens, puisqu'on n'a jamais réussi à saisir le virage de l'indépendance et que les gens. En fait, c'est que c'est mal vu. Si tu tapes dans une librairie et tu viens dire oui, moi j'ai sorti mon recueil indépendant, ils vont grincer des dents ou quoi. Alors qu'en France, techniquement, n'importe qui peut déposer un ISBN pour son livre. Tu fais la démarche sur internet, ça coûte. Je crois que c'est 80 euros maximum. Et je crois même que c'est 50 ou ça peut. Et selon ce que tu déposes, ça peut commencer à 30. Bref. Et tu as aussi des statuts associatifs qui te permettent de faire de l'édition de livres en France. Donc, c'est juste que n'est promulgué que ce moyen-là. Et donc, du coup, même si tu arrives avec ton livre en indépendant, ton ISBN, et tu tapes à la porte d'une librairie, ils vont dire « Ah, mais oui, mais Nani, nous, on passe par tiers-circuit, on travaille avec telle personne. » Et donc, du coup, c'est fermé, c'est cloisonné. Donc, si c'est fermé, c'est cloisonné, c'est toujours les mêmes personnes, en fait, les personnes des maisons d'édition. Et là, il faut juste regarder la structure d'un pays, et c'est que... Bah, quand tu grandis avec sur la table du salon Télé 7 jours, comme je dis toujours, ou Rimbaud, c'est pas la même chose. Et donc, si tu prends l'habitude d'écrire, en fait, c'est que tu vas être repéré par une maison d'édition si t'as juste un certain style, si grosso modo ça répond à un cahier des charges. Même quand il y a des trucs innovants, c'est des trucs innovants peut-être dans l'intrigue, etc. Mais au niveau du vocabulaire, des références surtout, des références, bah, faut que tu choisisses de faire ton chemin en indépendant avant, et moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Je me suis beaucoup intéressé à l'industrie de la musique et je me suis dit, bah, moi mes livres comme ça, LVDE, RDDST actuellement, je les prends comme des EP, je présente ce que je peux faire, je fais grossir mon truc, ça me permet de financer d'autres projets à côté, et un jour je sais que je ferai le gros projet qui me permettra de sortir. Par exemple, mon premier roman, il s'appelle Pendant que je meurs, il est fini depuis 2018, je suis prêt à le sortir, mais je le sortirai que dans des conditions décentes. Donc, ça me permet de dire aux gens, et si vous voulez que je le sorte, il faut me soutenir parce que j'en ai besoin, et aux autres de leur dire, ben voilà, regardez ce que j'ai fait tout seul. Et moi, maintenant, au moins, je suis en mesure de dire, si une maison d'édition, on reste dans une société capitaliste, et si tu veux faire des trucs, malheureusement, il te faut de l'argent. Moi, si une maison d'édition elle va arriver, ben, je vais lui dire ok, ben, déjà dans ton avance, tu vas me rembourser tout ce que j'ai déjà dépensé. Et ce ne sera pas autrement. Parce que je n'ai pas besoin de toi, en fait. Mais, en fait, une fois que tu acquiers. C'est malheureux, mais. Et c'est ce que j'essaie de déconstruire. Et si un jour j'arrive à mettre un pas de l'autre côté, c'est le premier truc que je tendrai pour. Je tendrai ma main pour les autres auteurs pour ça. Mais en fait, si tu arrives à un certain niveau de notoriété et que tu es connu, c'est qu'ils ne pourront pas se passer de toi. Donc s'ils peuvent pas se passer de toi, toi t'es en mesure de dire ben, c'est soit comme ça, soit j'ai pas besoin de vous et je continue à le faire en indépendant. Moi tout seul entre Bordeaux et Paris, j'ai pu faire imprimer mes livres en Bulgarie, j'ai travaillé avec une dessinatrice, j'ai fait tout seul mon truc. Et je récupère 100% de mes droits et je maîtrise, je sais qui sont mes acheteurs, qui part, etc. Ça demande du travail, ça demande de sortir plus d'argent, mais je l'ai fait. Donc, maintenant le but ça va être ben, ok, moi c'est pas une diatribe contre les maisons d'édition, hein. C'est juste de dire le système, ça va pas, tel qu'il est. Et ça favorise les mêmes, encore une fois. Donc, et je le répète, je reste privilégié. C'est-à-dire que même si je viens d'un environnement populaire, je suis un homme blanc hétérosexuel cis. Va faire autre chose quand t'as pas ces privilèges-là. Donc c'est même pas que pour moi que je le fais. Et c'est dans une démarche existentialiste et pour les autres aussi, sans me prendre pour un sauveur. Mais ouais, non, il y a des trucs, il faut que ça change et voilà, moi ce sera pas autrement, comme ça ou pas autrement.
Tu parlais des références tout à l'heure. Toi, c'est quoi tes références et tes inspirations pour écrire justement?
Bah, je dis souvent que je regarde des tableaux de Dali en écoutant Booba et qu'en sortant, tu vois, je lis Fanon en écoutant Lauryn Hill. Donc je pense que c'est un pêle-mêle de. Bah, Puzzle de mots et de pensées, c'est une référence à Booba et la chanson Repose en paix en plus. Mais ouais, mais bah, mes références elles sont rap, elles sont la Beat Generation comme je t'ai dit, elles sont musicales, énormément de voix féminines, et elles sont ouais, Dali c'est un truc de fou. Moi la rencontre avec Dali à la fac, bah, justement tout à l'heure on parlait des femmes qui m'ont sauvé. Je passe le bonjour à une jeune femme qui s'appelle Audrey Dali, comme je l'appelle toujours, et qui m'a un jour, j'étais chez elle, et elle m'a donné la main, elle m'a dit, ah, tiens, ça devrait te plaire. j'ai lu, wow, et j'ai pas décroché, tu vois, depuis. Et
Ouais.
y a ça, et il y a aussi L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, j'ai pris une claque. Donc ce livre-là, ça m'a pas mal mis une claque. Et il y a aussi un livre où, tu sais, parfois il y a des livres, j'ai des livres préférés et il y a des livres qui m'ont marqué, sans forcément que ce soit des
Ouais.
livres que je relis beaucoup, en parlant de référence. Et il y en a un, c'est un livre d'Hemingway. Et en fait, Hemingway, son style, c'est pas mal la litote, donc il répète des choses. Et je me suis dit, mais c'est forcé que ce mec, à l'époque, on devait juste lui dire c'est des répétitions. Mais en fait, lui, c'est devenu son style. Et moi, c'est pareil, il y a plein de trucs dans mon écriture quand j'écris. Ah ben, tu vois, le style parlé ou quoi que ce soit. Moi, la meilleure remarque qu'on peut me faire, on me la fait souvent, c'est ah oui, mais on te reconnaît. On sait que c'est toi. Il n'y a pas de doute. Genre, si on le lit, on sait que c'est toi, t'as ton truc. Et ça, voilà, au moins, c'est le truc le plus précieux que j'ai, c'est que j'ai ma patte. Et j'essaie de la faire évoluer pour pas que ça devienne linéaire, mais je l'ai. Et ouais, mes références. En vrai, c'est aussi beaucoup mon environnement. J'essaie de le faire comprendre à mes potes et de leur dire tout le temps, mais ils savent pas, genre, à quel point ils m'inspirent. Je leur passe un gros, gros big up chaleureux parce que c'est peut-être pas des trucs qui vont se retrouver consciemment dans mes textes. Mais comme, si tu veux, je reste quelqu'un. Au niveau sociétal, au niveau des caractéristiques, je suis privilégié. Et plus je vais avancer dans mon parcours de vie, plus je vais atteindre des sphères, moi le garçon d'une classe populaire auquel j'avais pas accès avant. Mes potes sont tous des hommes exemplaires, des pères de famille exemplaires, des travailleurs, des mecs épanouis et tout, qui ont pas du tout d'accointance forcément avec les mêmes choses que moi au niveau de l'art, des trucs comme ça et tout. Ils ont les leurs, mais on a des références communes. Et moi, c'est toujours c'est le un point. Hier, on me demandait qu'est-ce que c'était l'amitié. Je disais, c'est un point d'ancrage. Et moi, ce point d'ancrage-là, là, avec mes gars, ça me permet de tu vois, j'ai d'un côté, j'ai mes gars où c'est un point d'ancrage, où c'est mes références numéro un qui me permettent de ne pas oublier tout plein de choses et de me remémorer même. Et puis même d'avoir un espèce de truc qui te galvanise de la folie et tout, qui vont nourrir cette folie-là. Et d'un autre côté, j'ai mes. Les filles que je considère comme mes sœurs, tu vois, qui sont un gros point pour moi aussi, qui elles vont m'ont ouvert à la sensibilité et me poussent constamment à plus l'assumer, à plus aller dans ce sens-là, et qui vont elles me permettre d'aller vers un autre horizon. Donc il paraît qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et avoir des racines solides, et j'ai mes potes qui me rappellent ça, et mes sœurs qui me prennent par la main pour aller explorer d'autres choses, tu vois. Et mes références, c'est entre ça et ça, c'est-à-dire c'est entre. Je le dis dans un texte, je dis, mais c'est. Moi, mes références, c'est Yassa, Kefta, poulet de canard, tu vois, genre, c'est. Des confits de canard, pardon, et c'est genre, c'est ce pêle-mêle de trucs, en fait. C'est l'existence d'un. Ben, d'un petit babtou, de manière pernicieuse, privilégié, dans sa classe populaire, tu vois, et qui en voit des choses et qui voit les comportements que les gens ont parfois. Avec ses potes quand il est là et quand ils sont pas là, etc. etc. Et puis ouais, c'est le monde. Je dis toujours que j'écris des fresques de l'âme, c'est ça moi, c'est les énergies, c'est ce qui se passe. Et l'injustice.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
On s'y crée beaucoup sur l'injustice aussi.
Bah justement, en parlant d'injustice, j'ai pu lire que tu te définissais aussi comme artiviste, donc un mélange entre un artiste et un activiste. Et tu as aussi deux slogans, alors je vais les lire parce que sinon je vais les écorcher. C'est « La culture comme toi, toi comme culture » et « Faire de notre trésor personnel une richesse collective ». Je les écorche quand même, je suis désolée. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire et quelle est ta démarche par rapport à tout ça? Quel est ton message?
La culture comme toi, toi comme culture, c'est le slogan de mon association que j'ai montée qui s'appelle Maison Knowledge. Et comme ça le dit très explicitement, c'est que je me suis senti beaucoup plus libre quand j'ai lu certaines choses et quand je me suis réconcilié avec la culture. Et quand je dis culture, c'est tout, hein. C'est rap, c'est livres, c'est cuisine, ça peut être en fait... Tout est culture à partir du moment où tu t'y intéresses vraiment. Parce que chaque sujet a ses domaines d'expertise et a ses petites références, ses petites anecdotes, etc. Donc tu laisses personne ne pas te légitimer sur le fait que ce qui t'intéresse, c'est la culture, tu vois. Et donc, du coup, c'était ça, tu peux trouver un abri dans cette culture-là. Et surtout, en fait, dès que tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses forcément à des gens qui ont fait ça et tu vas forcément croiser d'autres gens qui vont te parler de ça, avec qui tu vas partager ça. Et moi, ma plus grande passion, c'est l'être humain, tu vois.
Ouais.
Donc, le toi comme culture, c'est vraiment ça, c'est que tu trouves tout. Comme je t'ai dit là, dans mon rapport à mes amis, ça l'expliquait bien, tu vois, tu trouves un rapport en... Tu trouves tout chez l'être humain, et comme on est tous des prismes et qu'on a plusieurs facettes, il n'y a rien de plus enrichissant qu'un être humain en face de toi. Donc du coup, c'est ce rapport-là, et c'est d'essayer de concilier les deux pour essayer de se déconstruire et d'être plus riche et plus sain vis-à-vis de l'autre. Et du coup, ça rejoint faire de notre trésor personnel une richesse collective en soi, où moi je prends de la conscience. Je prône que effectivement l'autre doit être un bonus pour toi dans tes relations personnelles, mais si on part en fait, si on prend juste l'expression d'un point de vue sociétal, moi j'estime qu'on vit pas que pour nous. J'ai une vision existentialiste, on vit pour l'ensemble. À partir du moment où tu n'existes pas sans l'ensemble, en fait tu t'es devenu ce que t'es grâce à l'ensemble, parce que t'as sociabilisé avec l'ensemble. Donc tu dois quelque chose à cet ensemble là. Et cet ensemble-là, c'est prendre conscience de toi, mais le prendre vraiment, c'est-à-dire prendre vraiment conscience de tes privilèges, prendre conscience que toi, la vie, elle est plus simple pour toi en tant qu'homme, en tant que blanc, en tant que tout ça, en tant que cis, en tant que hétérosexuel, et tout ça, c'est plus simple pour toi en tant que si t'es valide aussi, parce que les problèmes de validité, c'est important, et toutes ces problématiques-là, en fait, et peut-être qu'on en découvrira d'autres dans le futur, parce que plus la société avance, plus des gens s'expriment et t'offrent un nouveau panel d'expériences. Mais ouais, c'est ça, c'est vas-y, de toute façon, on est là pour vivre ensemble. Hein. On a niqué la planète ensemble, donc on va mourir ensemble. Donc à partir de ce moment-là, essayons de rendre tout ça cool et de capter que si... Que tout est basé sur un... Pour avoir un nous solide, il faut avoir un jeu très très déconstruit et sûr de ses bases, et qui est revenu sur ses bases, et c'est ça que je prône, moi.
C'est parfait, c'est top. J'adore. Je sais pas quoi rajouter de plus. On va partir un petit peu plus sur ce que tu fais maintenant, puisque aujourd'hui tu fais des courts-métrages sur Instagram. Je mettrai ton Instagram, bien sûr, dans la description pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller regarder ça. T'es aussi le créateur du podcast Anecdate, ça je l'ai découvert en lisant un petit peu ton dossier presse, j'étais pas du tout au courant, où tu parles donc de rendez-vous amoureux et d'enjeux sociaux, pareil, description, vous allez voir ça. Et tu as sorti bien sûr ton livre en 2021, ton deuxième livre, qui s'appelle RDDST, recueil de poèmes, en collaboration avec l'illustratrice Aziza Siankam, c'est comme ça qu'on dit ? Super. Donc je l'ai lu, je l'ai trouvé très cool. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce recueil-là et pourquoi RDDST ?
RDDST, ça reste un secret, dans le sens où j'invite les gens, tu vois, à essayer de trouver. C'est que autour de mon art, d'une manière générale, il y a pas une énigme, mais il y a des clés, tu vois, à prendre qui sont distillées entre plusieurs endroits. J'aime toujours réapproprier beaucoup de choses en tant qu'objet artistique. Et le premier rapport que j'ai eu à Instagram, c'est de me réapproprier Instagram en tant qu'objet artistique. Donc la base de l'énigme et de ce qu'il y a à chercher part du Instagram et de comment c'est fait, de petits mots-clés, etc. Okay. qu'il y a autour de RDDST. Après là, pendant notre longue discussion, à un moment j'ai distillé, j'ai donné un gros indice sur ce que signifie RDDST. Donc si les gens sont attentifs, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à chercher, qui m'ont envoyé des trucs. D'ailleurs, une personne qui a été loin dans la recherche.
Il y a quelqu'un qui a trouvé un peu ?
Non. Et il y a deux personnes qui sachent, il y a une personne qui sait réellement ce que ça veut dire, juste pour le moment. Donc en fait, je l'ai dit à ma mère aussi, mais je pense que ma mère a oublié, honnêtement. Donc n'allez pas, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut chercher. Mais sinon, il y a une personne qui le sait, qui sait elle ce que ça veut dire. Et ça donne pas mal de clés pour mieux comprendre ce que je fais, pour peut-être mieux me comprendre aussi. Et du coup, ta question, c'était par rapport à...
Nous parler un petit peu du recueil, qu'est-ce que tu as voulu faire passer. Pourquoi RDDST ? Mais du coup, ça, j'ai compris que c'était vraiment une énigme que tu laisses les gens découvrir. J'aime bien aussi cette idée.
RDDST, du coup... Ah si, tu me parlais de Anecdate. Anecdate, déjà, bonjour aussi, à Philippine, avec qui je fais le podcast. Brièvement, on essaye donc de déconstruire les enjeux sociaux à travers le prisme du date, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que... Il n'y a pas que moi qui dis ça, d'ailleurs, que le personnel est politique, tu vois, aujourd'hui, à partir du moment où on est des productions sociales en tant qu'hommes avec un grand H, et qu'on n'est pas poreux, que la société s'infiltre en nous, on reproduit des schémas et des mécanismes qui sont parfois problématiques, donc il faut les déconstruire même dans nos schémas personnels avec qui on croit être notre meilleur ami, notre petite copine, notre petit copain, peu importe. Il y a des choses problématiques qu'on fait en tant que privilégiés qu'il faut déconstruire. Donc c'est ça qu'on essaye de faire vraiment dans le domaine de l'amour avec Anecdate, avec Philippine. Et c'est bien parce qu'on a les deux penchants, c'est une femme racisée, bisexuelle, je suis un homme hétérosexuel cis blanc, donc ça nous permet... Et puis on a des invités chaque semaine, donc c'est cool. Et après, le recueil, comme je te l'ai dit, faut de manière très honnête, il y a une part, c'est un outil pour me permettre de préparer la sortie du roman et d'y accéder surtout. Donc ça, c'est important. Et il y a d'une autre part où pendant longtemps, je n'arrivais pas à me légitimer sur le fait que je faisais de la poésie. Pour moi, la poésie, tu vois, quand on parlait d'arrachement à la culture et tout, c'était un truc, c'était Victor Hugo, c'était Baudelaire, c'était La Charogne. Et moi, j'écrivais pas comme ça.
Ouais.
Et c'est des gens...
C'est un truc très élitiste.
Exactement. Et c'est des gens qui ont incité à mon entourage en me disant, mais non, mais fais... si tu estimes que c'est de la poésie, vas-y. La première fois que j'ai écrit un poème, et je l'ai vraiment moi pensé, où je me suis dit, là, j'écris un poème, c'est le poème Le meuble télé. Qui est à la fin du livre.
Ouais.
Et moi, pour tout te dire, ce poème, je me suis dit, du coup, c'est ça la poésie, c'est un peu perché, ça va parler qu'à toi. Et en fait, j'ai eu grave de retours sur ce poème-là. Et c'est là où je me suis dit vraiment.
Ouais, il est très intéressant, j'ai beaucoup aimé le lire aussi.
Merci. Et du coup, c'est vraiment genre, tu te rends compte que plus c'est personnel, plus c'est universel, souvent. Et du coup, il y avait ce truc de. Je sais que souvent, moi, j'écris d'une manière où les gens peuvent se retrouver noyés quand ils me lisent, parce que ça doit être des formations du rap, ça, mais genre, voilà les phrases impactantes. Genre, je sais que souvent, on me l'a dit, que c'est en mode, ça peut prendre et il faut le souffle, tu vois, pour lire ton texte. Et du coup, l'idée, c'était d'extraire les phrases qui, moi, me marchent toutes seules et qui me parlent de manière toute seule, de manière isolée, et d'en faire un recueil de poèmes, en fait, parce que ça pouvait marcher ainsi, et que j'ai toujours aimé mélanger les formes d'art. Donc du coup, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée avec Aziza, donc j'étais très heureux C'est, tu sais, quand une illustratrice vient, elle donne sa vision de la phrase et elle peut. Enfin, tu redécouvres ce que tu as écrit toi-même, en fait, parce que quelqu'un le lit d'une autre manière. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer de toucher les gens et de. Enfin, de toucher les gens, c'était de partager une fois de plus des choses devant lesquelles ils avaient pu passer sans forcément s'en rendre compte. Et il y a des phrases qui me tiennent beaucoup à cœur. Et mine de rien, sur le plan personnel, pour tout te dire. Je t'en ai déjà parlé, j'ai un nombre d'imposteurs, mais j'arrive jamais trop, moi, à me satisfaire de ce que je fais, à tirer de la fierté de ce que je fais et tout. Moi, mon premier livre, honnêtement, ça m'a jamais fait ni chaud ni froid. Tout ça agace pas mal mes proches et tout sur ce point-là. Là, c'est la première fois quand même que j'en tire un peu de fierté de ce projet-là. Mmh. Et je pense que j'en tire un peu aussi de fierté parce que, mine de rien, tu sais, à la fin, il y a des poèmes un peu plus longs. C'est des...
Oui.
Et ces poèmes plus longs-là, ils ont été écrits... autant il y a des phrases qui datent d'il y a pas mal de temps, autant les poèmes de fin sont plutôt récents. Et c'est juste d'avoir réussi à faire quelque chose d'une période plus ou moins compliquée par laquelle je suis passé. Et c'est la première fois que là, peut-être mon art agit vraiment en termes de catharsis. Et de manière cathartique, du coup, et ouais, j'en tire aussi de la fierté sur ça. Et après, voilà, genre, ce que j'ai écrit, je trouve ça grave chaud. Donc,
mais c'est grave chaud, il est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le rapport entre l'illustration et les petites phrases qui sont sur les trois quarts du livre. J'ai beaucoup aimé, comme je te disais aussi, la différence d'écriture que tu peux trouver entre. Des fois des phrases très crues, très sexuelles et à la fois des moments super poétiques et limite presque oniriques. Et aussi la deuxième partie que j'ai beaucoup aimée avec par exemple le poème Horcrux, j'ai adoré. Ambre aussi j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a beaucoup de passages du livre qui m'ont beaucoup, qui m'ont pas mal frappée on va dire. Il y a des choses que j'ai un peu moins aimées parce que ça me parle moins. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette ambivalence d'écriture... qui fait qui tu es et aussi je sais pas comment te dire mais ça se transmet vraiment dans ce que t'écris. Moi j'ai beaucoup aimé et j'invite bien sûr les gens à acheter ton recueil, bien évidemment le lien sera en description pour l'acheter. Voilà, allez découvrir ça par vous-même, c'est vraiment très intéressant et en plus de ça c'est publié en indépendant donc ça a le mérite d'exister et j'espère vraiment que tu iras loin avec ce projet là. Félicitations en tout cas.
Merci beaucoup, c'est touchant.
Avec plaisir. On arrive sur la troisième et la dernière partie de l'interview. On va passer aux petites questions de fin que j'aime bien poser à tous les invités. La première, j'aimerais bien te demander si tu avais la possibilité d'écrire une lettre à ton toi dans 5 ans, ton toi futur, qu'est-ce que tu voudrais te dire ?
Du coup, que moi, maintenant, je lui rappelle des choses, en fait, ça.
Ouais, ou que tu lui poses des questions, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voudrais te dire ?
Le premier truc, j'aimerais lui rappeler... si, et ce que je compte faire, à savoir si j'ai réussi ce que je voulais faire, ne pas oublier par le chemin indépendant par lequel je suis passé. Et que le but, c'est d'abord de déblayer la route et de donc du coup maintenant vraiment de l'ouvrir à d'autres gens qui peuvent connaître ça, peu importe leur horizon d'ailleurs. Et ouais, et le rappeler. Et je pense que j'aurai des questions sous mesure qui puissent me répondre à la lettre. Mais ouais, il y aurait des questions bien évidemment très personnelles, tu vois, toutes ces choses qu'on a évoquées en fait en début d'interview, où c'est que t'en es, ton rapport à la douceur, à la sensibilité, ouais. Les choses comme ça et tout. Et non, mais ce que je lui dirais surtout moi, c'est... Et je pense que je lui demanderais de me rappeler de cette période-là. Là. Parce qu'en vrai de vrai, genre là, actuellement dans ma vie, je joue beaucoup de choses et je pense que... Je suis en train d'évoluer sur certaines habitudes que j'ai et je suis en train de mettre des trucs en place. Pour illustrer, j'ai sûrement cru que j'étais arrivé au bout du chemin sur certaines choses, alors qu'en réalité, j'en étais à 80%. Et là, actuellement, je suis en train de me rendre compte des 20% restants qui me restent et je suis en train de finir le jeu sur certains points. Et j'aimerais lui demander de se rappeler cette période parce qu'elle a été galvanisante. Et lui dire surtout, vas-y, maintenant tu mérites. Genre, arrête le syndrome de l'imposteur. Genre, t'as le droit aussi à ça. Tu as le droit. Juste me rappeler ça. Parce que sinon, sinon j'arrête jamais et tu profites pas, en fait. Donc, c'est vraiment le truc, je pense, que je dirais, t'as le droit.
C'est quoi tes objectifs pour l'avenir ?
Réaliser. Je vais y aller à fond là-dedans. Là, je viens de sortir je viens de sortir un court-métrage. Donc, j'avais déjà réalisé des courts-métrages, mais là, je viens de sortir un court-métrage où vraiment, je suis pas à l'écran, où c'est pas une caméra fixe, où je bouge et tout. Il s'appelle Égaré. Je vous invite à aller le voir. Mmh. Et donc, c'est continuer là-dedans. Continuer à me déconstruire. Et jamais oublier que c'est jamais fini, tu vois. Que, comme je dis toujours, un privilège, ça pardonne jamais. Donc, pas perdre ça de vue, malgré que je réussisse certaines choses. Et ouais, m'ouvrir au bonheur. Hein. Clairement, genre, c'est mon truc numéro un. C'est me dire, comme je t'ai dit, que tout ça, c'est possible. Que c'est, au-delà de c'est possible, ça peut être mérité. Et en fait, arrêter, je veux juste... C'est déjà un de mes objectifs numéro un, mais... J'aimerais beaucoup arrêter de voir les choses de manière trop, pas binaire, mais tu vois, de prendre conscience que le bonheur, ça veut pas forcément dire que du top. Tu peux faire ça et c'est pas pour autant que ça s'appelle pas le bonheur. Mmh. Et c'est prendre conscience de ces choses-là, de plus prendre conscience de la... De continuer de prendre conscience de qui je suis. En faisant bélec, parce que sinon je vais avoir un trop fort ego, mais ouais, mon objectif, moi, c'est d'être prêt, c'est de me servir toutes les clés que j'ai trouvées jusqu'ici, de m'en servir pleinement, maintenant de les optimiser, d'être vraiment heureux, en fait. Et si je dois rajouter une touche certifiée de Loverboy, que je pense vraiment, j'aimerais bien trouver un peu de sûreté dans ma vie, tu vois.
Mm. Ouais. Bah justement, tu dis que t'aimerais être heureux. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire que t'es heureux ou pas ?
Bah, tu sais quoi, c'est la première fois que je réponds à cette question de cette manière. Je vais te dire que oui. Pour la simple et bonne raison que pendant toute ma vie, jusqu'à là, jusqu'au mois de janvier, donc c'est très récent, j'ai toujours répété que pour moi le bonheur c'était une question de fin de vie, que tu faisais le bilan à la fin, tu vois. Et qu'en attendant, c'était juste des moments de peine et des moments de joie et qu'il fallait les saisir. Là, je suis en train de déconstruire ça et je me rends compte que tu m'entendras pas dire... Je peux pas dire que je suis malheureux, c'est pas possible ça. Mais de par une, mes privilèges, de par deux... Pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, je sais que je suis en train de mettre tout en œuvre pour faire du travail qui va... Je sais que j'ai une dernière montagne à passer, mais qu'après, je vais vivre le meilleur truc, tu vois, de ma vie. Donc, même si je suis à l'ombre actuellement ou qu'il y a des creux de la vague, mais quand tu es au creux de la vague, tu as quand même la chance d'être à l'océan, en fait. Et donc, de ce fait-là, même si peut-être que quand je te dis « oui, je suis heureux », je ne le pense pas à 100%, et bien maintenant, aujourd'hui, je vais avoir au moins le réflexe de me forcer à de dire « oui, je suis heureux ». Parce qu'en vrai de vrai, genre, qu'est-ce qui... Je suis pas malheureux, c'est pas vrai. Donc, au lieu de chercher un terme que tu inventes entre les deux états, je préfère me dire, ben ouais, mets-toi dans le mood de dire oui, t'es heureux, tu vois, et forcément, du bien attire du bien, donc ça va t'attirer d'autres choses. Donc aujourd'hui, même si j'en suis pas persuadé, je préfère me dire que je suis heureux, et en plus de ça, je pense que c'est vrai en grande partie, donc on va aller dans ce sens-là.
T'as bien raison. Et puis pour terminer cet épisode, l'ultime question de cette interview, la question peut-être un petit peu difficile à répondre parce qu'on ne sait jamais vraiment qui nous écoute, mais je trouve que ça montre beaucoup de l'invité. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit sur des thématiques qu'on a abordées ou tout à fait autre chose ?
Bah, je pense, très humblement, je leur dirais juste de prendre du recul sur eux-mêmes et de prendre conscience d'eux. Mmh. Je leur dirais de... En fait, moi je vais parler, je dis toujours la même chose. Je vais pas m'autoriser à parler à n'importe qui. C'est-à-dire que je vais parler aux gens qui ont des privilèges en commun avec moi, parce qu'il y a d'autres expériences que je ne vivrai jamais, que je ressentirai jamais. Donc j'ai pas à venir mon mot à dire. Donc aux personnes qui partagent certains privilèges avec moi, donc de blanc triarcat ou aux hommes qui sont des hommes cis. genre au bout d'un moment, c'est bon, faut assumer et se prendre en main, tu vois. Et quand je dis assumer et se prendre en main, c'est le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que faut arrêter au bout d'un moment de des excuses ou des remises en question. C'est pas des vraies remises en question si tu les fais à 99%. Si dans le 1% tu cherches encore à défendre quelques trucs, choses que t'as fait ou certaines postures ou quoi que ce soit, c'est que tu le fais pas vraiment et tu continues à blesser l'autre, à jouir ton privilège. Donc au bout d'un moment, c'est ça va faire mal. On te dit pas que t'es le mec le plus coupable du monde ou que t'es la personne blanche la plus coupable du monde, mais assume que t'as fait des choses mal en fait. Et passe au-dessus et après deviens plus sain et plus inclusif pour l'autre. Et c'est juste ça, c'est de se dire ok, t'es né dans un endroit, mais t'as le devoir de te. C'est même pas un conseil, c'est que là, c'est. Si j'avais les moyens, ce serait un ordre, tu vois. Mais c'est genre, tu le dois aux autres, en fait. À partir du moment là où tu fais subir à l'autre, tu le dois aux autres. Donc, juste fais ça. Et ça, je sais que quand je dis tout ça, souvent, ça, je parais très sévère. Et il n'y a pas de souci à ce que je parais sévère. Et donc, du coup, pour compenser, juste dire aux gens, faut jamais perdre une occasion d'être bienveillant avec quelqu'un. Ça te coûte rien. Et surtout, laissez pas des gens qui sont pas à l'aise avec leurs démons vous fixer une case ou un truc que tu devrais pas dépasser ou quoi que ce soit en fait. Si tu, je l'ai dit, Hemingway de base on devait lui dire que c'était des répétitions, Dali on devait lui dire que c'était n'importe quoi, Martin Luther King au début on lui a dit te lève pas, enfin sur toutes les problématiques en fait. Donc si tu sais que c'est pas blessant pour l'autre et que toi ça t'anime, fonce, parce que sinon la vie vaut pas la peine d'être vécue.
Merci Aymeric.
Merci à toi pour l'invitation.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteillealamer-podcast@outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.